France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et on fera le point dès le début du journal sur les tueries commises ce week-end en Syrie. Des exactions innommables perpétrées contre des civils, membres de la minorité dont est issu le clan du président déchu Bachar al-Assad. Une véritable épreuve de vérité pour le pouvoir à Damas. On verra par ailleurs comment le futur nouveau premier ministre canadien entend bien tenir tête au bouleversement induit par les tribulations de son voisin américain. L'actualité également en France avec notre invité. Tout d'abord, on parlera plan d'adaptation au changement climatique. On s'intéressera à la refondation du métier d'infirmière et infirmier à l'occasion d'une proposition de loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Enfin, c'est un symbole de la French Tech qui se retrouve aujourd'hui au bord du gouffre. Aldébaran, le fabricant du petit robot humanoïde Nao placé en redressement judiciaire, annonce vouloir supprimer la moitié de ses effectifs. C'est un véritable massacre, près de 1000 civils tués en quelques jours à peine, preuve qu'après plus de 13 années de guerre civile, la tentative d'un consensus national autour du futur de la Syrie, multiethnique et multiconfessionnelle, relève encore très largement de la gageure. Depuis que les partisans de l'ancien régime ont lancé des attaques la semaine dernière dans le bastion de la minorité alaouite contre les forces de sécurité, le pays est en proie désormais à une véritable effusion de sang, meurtres, exécutions sommaires, opérations de nettoyage ethnique, une riposte féroce, y compris contre les femmes et les enfants menées par des milices djihadistes extrémistes venues du nord et de l'est, des groupes qui ne reconnaissent pas les nouvelles autorités. C'est ainsi qu'hier, le président par intérim, Ahmad Al-Sharaa, a eu beau appeler à l'unité nationale et à la paix, rien n'y a fait. Le pays tout entier vacille à présent dans la terreur, sans compter que dans le nord, à majorité kurde, comme dans la région druze au sud, là-bas aussi, les critiques s'accentuent contre le pouvoir central. En d'autres termes, et tandis que partout les signaux annonciateurs d'un délitement, voire d'une bascule s'amoncellent, c'est aujourd'hui plus que jamais l'heure de vérité pour les nouveaux maîtres de Damas, raison pour laquelle hier, Marie-Pierre Véraud, une commission d'enquête et un comité visant à préserver la paix civile ont été mis sur pied.
Devant l'ampleur des massacres de civils alaouites, des familles entières exécutées, devant les condamnations de la communauté internationale, le pouvoir ne pouvait rester silencieux. Dans une vidéo à l'adresse du peuple syrien, Ahmad Al-Sharaa a promis que justice serait faite.
Nous demanderons des comptes fermement et sans compromis à tous ceux qui ont versé le sang de civils ou qui ont maltraité notre peuple, à toute personne qui a outrepassé les pouvoirs de l'État ou utilisé l'autorité pour atteindre ses propres objectifs. Personne ne sera au-dessus des lois. Toute personne dont les mains sont tachées du sang de Syriens sera traduite en justice le plus tôt possible.
Une commission d'enquête de 7 personnes, essentiellement des magistrats, dont 2 alaouites, a été mise sur pied. Elle doit rendre son rapport sous un mois. Un comité chargé de ramener la paix civile et de protéger les populations a également été créé. C'est le premier très gros défi qu'affronte la nouvelle administration. L'ennui, c'est que le pouvoir a du mal à contrôler les djihadistes les plus radicaux, qui considèrent Al-Sharaa comme un traître et les alaouites comme des hérétiques à éliminer. De nombreux témoignages font état de l'implication de djihadistes étrangers, mais aussi de membres de ses propres forces de sécurité dans les exactions. Et le président syrien par intérim manque non seulement de moyens, mais aussi de temps, alors que les Syriens, particulièrement les minorités, vivent de nouveau dans la terreur et que la confiance dans les autorités et leur capacité à les protéger est brisée.
Une délégation israélienne est attendue aujourd'hui au Qatar pour des négociations indirectes avec le Hamas sur la poursuite du cessez-le-feu à Gaza. Pour autant, les chances de surmonter les divergences qui entravent l'instauration d'une trêve durable entre belligérants restent réduites à peau de chagrin, d'autant qu'après avoir déjà coupé l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le territoire palestinien assiégé hier, l'État hébreu a ordonné l'arrêt total de l'approvisionnement de l'enclave en électricité, manière de durcir sa pression sur le mouvement islamiste, quitte donc à plonger tous les Gazaouis dans le noir total.
Après que l'armée du Kremlin a revendiqué ce week-end d'importantes avancées sur le front en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite.
Oui, demain se tiendra sur place une rencontre entre une délégation de Kiev et une équipe venue tout droit de Washington, soit la première entre responsables ukrainiens et américains depuis la spectaculaire et désastreuse altercation dans le bureau ovale. Alors l'administration Trump entend se servir de cette rencontre pour déterminer si Kiev est disposé ou non à effectuer des concessions concrètes en vue de mettre fin au conflit avec l'envahisseur russe. De leur côté, les Européens répètent que l'Ukraine doit être en position de force pour négocier un quelconque accord avec Moscou, ce qui suppose que le gouvernement ukrainien ne soit pas forcé à s'asseoir trop rapidement à la table des négociations avec son agresseur. Novice en politique, Marc Carnet, 59 ans, ancien banquier central, élu hier au poste de nouveau chef du parti au pouvoir au Canada et donc futur Premier ministre, n'a pas pour autant l'intention de se laisser intimider par les menaces de son puissant voisin. Hier, celui qui doit prendre officiellement la succession de Justin Trudeau jusqu'à l'organisation des prochaines élections à l'automne prochain est monté au créneau contre Donald Trump, assurant dans un discours offensif que son pays ne fera jamais partie des États-Unis de quelque façon que ce soit. Son portrait est signé Valérie Crovin.
Certes, il n'a pas le charisme de Justin Trudeau. Les cheveux grisonnants, Marc Carney projette néanmoins une image rassurante. Son discours de fermeté prononcé hier a donné le ton de son mandat. Il tiendra tête à Donald Trump. « Nous faisons face à la crise la plus grave de notre génération », a-t-il insisté, et d'évoquer des jours sombres provoqués par un pays auquel nous ne pouvons plus faire confiance. La défense des intérêts canadiens a été au centre de sa campagne. Économiste formé à Harvard et à Oxford, Marc Carney a travaillé 13 ans chez Goldman Sachs avant de devenir gouverneur de la Banque du Canada en pleine crise financière, puis de prendre la tête de la Banque d'Angleterre. Une première pour un Canadien. Celui qui se définit comme centriste veut imposer une plus grande rigueur budgétaire. Il est aussi un fervent défenseur de notre langue. La culture et la langue française font partie de notre identité au Québec et partout au Canada, a-t-il rappelé sous les applaudissements de ses supporters.
Alors Marc Carney était jusqu'à tout récemment encore envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique, refusant notamment d'opposer économie et écologie, une raison de plus sans doute de défier le locataire de la Maison Blanche qui n'a jamais fait mystère de ses orientations en matière énergétique et notamment son impact sur le renouvelable. Toute cette semaine d'ailleurs, la grande conférence mondiale de Houston devrait donner le ton, qu'il s'agisse de déréglementation ou dérégulation avec des mesures favorables à l'extraction des énergies fossiles et d'autres visant à limiter voire annuler certaines contraintes environnementales.
En France, le gouvernement présentait, lui, ce matin, son très attendu et surtout longtemps retardé troisième plan national d'adaptation au changement climatique.
Oui, une cinquantaine de mesures au total pour préparer le pays à un réchauffement pouvant atteindre 4 degrés. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à la présentation ce matin par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, de cette version finalisée, donc avec un certain nombre d'actions concrètes pour, disons, mieux adapter le territoire à ce dérèglement climatique dont les impacts, Véronique, sont d'ores et déjà bien visibles.
Oui, la ministre de la Transition écologique les a longuement égrenés, ces impacts déjà visibles, avec seulement une hausse des températures de 1,7 degré en moyenne en France depuis 1900. Une situation qualifiée à plusieurs reprises de tragique par Agnès Pannier-Runacher. 1,5 million de Français exposés au risque de submersion marine. Les glaciers alpins ont perdu 70% de leur volume depuis 1850. 30% des forêts françaises sont soumises à des risques élevés d'incendie, sécheresse, inondation. Il n'y a pas d'endroit épargné en France par le changement climatique. Et ça ne va pas s'arranger à 4 degrés en termes de record de chaleur, de sécheresse dévastatrice ou encore de pluie torrentielle. Le plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, compte donc 52 mesures, 200 actions déclinées sur le terrain. Par exemple, planter des arbres en forêt plus à même de résister aux canicules, mobiliser des COP territoriales, accélérer les connaissances des impacts climatiques sur le milieu agricole, inculquer aussi la culture du risque aux Français pour qu'ils aient les bons réflexes au moment d'un cyclone ou d'une inondation. Adapter aussi par exemple les heures de travail des salariés en cas de canicule pour mieux vivre ce qui nous attend, a expliqué Agnès Pannier-Runacher.
La transition écologique, ça ne doit pas être une purge pour les Françaises et les Français. Et que l'enjeu est de leur montrer qu'ils ont un bénéfice immédiat, égoïste à cette transition écologique. Un bénéfice en matière de santé, c'est assez facile à prouver. Je mentionnais les sommes astronomiques qui correspondent à l'impact sur les coûts de santé des canicules, 22 à 37 milliards d'euros, suivant les hypothèses que l'on retient, sur 5 ans seulement. Et au moment où les tensions géopolitiques se font jour, et face à cela, avoir une politique écologique, c'est aussi renforcer notre indépendance. Et d'autre part, faire en sorte de ne pas être dans des logiques de prédation d'autres territoires comme certains grands pays semblent vouloir aujourd'hui se mettre.
Rien. Alors, rien de contraignant dans ce qui a été annoncé. 1 milliard d'euros quand même sera débloqué par l'État pour les agences de l'eau. Et un dernier chiffre, investir 1 euro dans l'adaptation, c'est en économiser 8 en réparation.
Merci Véronique Robert. Et pour continuer d'évoquer ce plan, invité de la rédaction, Adèle Tanguy, chercheuse sur les risques climatiques et politiques d'adaptation au changement climatique à l'IDRI. Bonjour madame.
Bonjour.
Est-ce que ce nouveau plan constitue véritablement une avancée importante selon vous par rapport au précédent et au dispositif qui existait jusque-là ?
Alors, c'est une avancée par rapport au plan d'adaptation au changement climatique 1 et 2 qu'on avait déjà eu, donc le deuxième qui était sorti en 2018. Mais au final, par rapport à l'existant, en partie, mais on voit aussi que dans le plan, il y a beaucoup de mesures qui existent déjà, qui devaient déjà être mises en œuvre et qui sont synthétisées, représentées. Donc en fait, on fait la synthèse de ce qui existe déjà. Il y a quelques nouvelles mesures qui sont annoncées, mais finalement, elles ne vont pas toutes aussi loin qu'on pourrait l'espérer si on veut pouvoir mettre en place les changements profonds dont on a besoin pour l'adaptation. Donc on parle d'adaptation transformationnelle. C'est aller plus loin en fait que maintenir les systèmes, les fonctionnements actuels et vraiment, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, changer les pratiques, changer la manière dont on fonctionne. Et donc, c'est ces transformations-là qu'on a un petit peu du mal à voir encore dans ce plan-là.
Est-ce que ce manque d'ambition ou cette frilosité, disons-le comme cela, ne peut pas s'expliquer au regard du contexte budgétaire, peut-être contraint, dans lequel se trouve aujourd'hui la France ?
Alors, sur le budget, par exemple, c'est vrai que donc ce que je disais, c'est que sur beaucoup des mesures, on voit pas vraiment cette ambition parce qu'il y a des choses qui sont annoncées. Mais en fait, on voit quelques petits éléments de court terme et on a du mal à voir comment on va s'en saisir après. Donc, par exemple, dans certains domaines, on prévoit de réaliser des études. Sur l'agriculture, il y a une étude sur à quoi pourrait ressembler la production agricole en 2050. Mais une fois que l'étude sera soumise, il n'y a pas vraiment de calendrier pour savoir comment on va s'en saisir. Il n'y a pas non plus de budget associé sur cette mesure-là. Donc en fait, on se pose beaucoup de questions sur la mise en œuvre du plan et sur, dans les prochaines années, comment on va faire pour vraiment passer à ces transformations-là. Et ça, sur le budget, c'est aussi notamment lié au vote du budget qui a eu lieu récemment. Et par exemple, sur toutes les agences de l'État, que ce soit l'ADEME, donc l'Agence de la Transition écologique, les agences de l'eau, le CEREMA, etc., qui sont des agences qui sont censées supporter cet effort d'adaptation dans les territoires. Et bien ça va se faire à moyen constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux budgets qui ont été alloués avec le budget 2025. Et donc, c'est des budgets qui sont en baisse par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, on peut aussi se demander comment on va faire pour justement en faire plus avec autant, voire moins d'argent.
On a bien compris qu'il y avait toujours cette disparité entre, d'un côté, le diagnostic, les transformations à mettre en place, et puis de l'autre, les moyens politiques, financiers disposés à mettre en œuvre ces transformations. Si l'on devait trouver malgré tout des raisons d'être optimiste, est-ce qu'un accent particulier n'a pas été mis tout de même ce matin sur l'implication des relais territoriaux qui doivent permettre de répondre plus justement et plus précisément aux enjeux locaux de chaque problématique ?
Si, justement, ça, c'est un volet qui est assez aussi intéressant par rapport à ce qu'on avait avant, c'est celui de la territorialisation. Et c'est une avancée parce qu'en fait, on reconnaît que l'adaptation, c'est pas une réponse unique à un problème qui va s'aggraver avec le changement climatique, mais c'est aussi le fait qu'il faut faire des choix. Des choix qui vont aussi correspondre aux réalités de chaque territoire. Parce qu'en fait, par exemple, quand on va manquer d'une ressource comme l'eau en particulier, il va falloir arbitrer, il va y avoir des conflits d'usage, des conflits d'intérêts, et qu'en fait, ces conflits-là, ils peuvent se résoudre différemment d'un territoire à l'autre en fonction des priorités. Ou par exemple, une route qui est exposée à un risque d'inondation, c'est pas la même chose si c'est la seule route qui mène à un village et qui le relie à un centre de santé, ou s'il y a d'autres routes existantes. Donc on voit bien qu'en fait, les décisions, elles dépendent vraiment du contexte. Et donc cette territorialisation, elle est importante, mais elle reste encore à faire, puisque les COP régionales, elles vont se dérouler là sur l'année 2025. Donc on attend de voir aussi le niveau d'ambition qui va en sortir.
Une dernière question. En quelques mots, on le sait, les personnes les plus vulnérables sur le plan socio-économique sont en moyenne les plus exposées que les autres aux conséquences du changement climatique. Est-ce que, selon vous, ces problématiques de justice sociale sont correctement prises en compte aujourd'hui par les pouvoirs publics ?
Alors, c'était en partie mentionné dans quelques-unes des mesures du PNAC, cette question des populations les plus vulnérables, mais pas forcément au niveau auquel on pourrait s'y attendre. Et il y a vraiment un enjeu de justement mutualisation des risques entre les territoires les mieux dotés, les moins bien dotés, faire en sorte qu'il y ait une solidarité nationale, aussi que les dispositifs d'aide y soient ciblés sur les personnes les plus précaires, qui sont aussi les plus vulnérables aux enjeux du changement climatique. Et donc c'est ça qui manque aussi un petit peu dans ce document-là et qu'il aurait fallu peut-être renforcer.
C'est bien noté. Merci Adèle Tanguy, chercheuse donc sur les risques climatiques et politiques d'adaptation au changement climatique, à l'IDRI d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Le procès de l'enseignante d'Evaël, cette collégienne de 11 ans qui s'était suicidée en 2019, s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
Oui, c'était le 21 juin 2019. Le père d'Evaël retrouvait sa fille pendue à son lit. Depuis son entrée au collège, les problèmes s'étaient multipliés. Au-delà du comportement insultant et parfois violent de certains camarades, elle faisait face notamment à des tensions avec sa professeure de français. Dans l'ordonnance de renvoi, celle-ci se voit reprocher d'avoir régulièrement humilié Evaël devant sa classe. L'enseignante aujourd'hui âgé de 62 ans, est également jugé pour avoir harcelé deux autres collégiens. Comment permettre une meilleure prise en charge des patients, notamment dans les déserts médicaux? Aujourd'hui débute à l'Assemblée l'examen d'une proposition de loi sur la profession d'infirmier. L'objectif, permettre une meilleure reconnaissance de cette profession paramédicale, mais aussi actualiser leur mission, tant les pratiques comme les compétences des quelques 650 000 infirmières et infirmiers sur le territoire ont beaucoup évolué ces dernières années, en particulier après le Covid. C'est dire, Lucas Laroche, si cette réforme maintes fois promise est aujourd'hui attendue.
Une réforme mise en pratique pendant le Covid, mais de manière temporaire. Aujourd'hui, l'enjeu est donc de permettre à nouveau aux infirmières, via la loi, de faire des diagnostics et des prescriptions. Des actes qui ne remplaceront pas ceux des médecins, mais qui s'avèrent nécessaires dans certains cas, explique Daniel Guilherme, président de la Fédération nationale des infirmiers.
Si un vendredi soir, vous recevez un patient qui a des résultats de biologie très perturbés, je pense notamment au traitement anticoagulant, jusqu'à présent, en fait, si vous n'aviez pas de médecin sous la main, vous aviez l'obligation d'appeler le service des urgences, alors qu'on a en fait aujourd'hui suffisamment de compétences pour agir sur ces traitements. Dans le cadre de certaines pathologies, il y a des actes sur lesquels on pourrait avoir un accès direct, ce qui en fait fluidifierait le parcours de soins des patients.
Certains médecins voient cette proposition comme un véritable soutien de la part du corps infirmier, c'est le cas du syndicat des médecins généralistes. Le docteur Nogret en est son représentant.
C'est une profession qu'on connaît parfaitement bien puisque il participe à la prise en charge de nos patients les plus complexes sur le terrain, on les voit tous les jours. Et on aimerait bien que cette coopération soit de plus en plus étroite et de plus en plus solide. Voilà, donc s'ils montent en compétences et si ça se passe en parfaite collaboration avec nous, ça ne nous pose aucun problème, bien au contraire.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'oppose, lui, au vote de ce texte.
Le fabricant du petit robot humanoïde Nao va-t-il trouver un repreneur?
Placé en redressement judiciaire, le mois dernier, Aldébaran vient d'annoncer qu'il allait supprimer près de la moitié de ses effectifs, 72 personnes au total, une annonce brutale, censée permettre donc de trouver un repreneur, sauf Annabelle Grolier, que les espoirs aujourd'hui sont plutôt minces.
C'est l'arrêt brutal du financement de son principal actionnaire, le groupe allemand RAG, qui a plongé les comptes de l'entreprise dans le rouge. Plus de 150 millions d'euros de pertes depuis 2019. Placé en redressement judiciaire le mois dernier, Aldébaran annonce un plan social de la moitié de son personnel, soit 80 salariés. Un plan social qui pourrait être financé par l'agence de garantie des salaires, ce que dénonce cet ingénieur d'Aldébaran sous couvert d'anonymat.
Normalement, la loi française, elle est claire, elle dit, si jamais il y a un plan, quel qu'il soit, un plan de licenciement, un plan de sauvegarde, un plan de redressement judiciaire, voire même une faillite, ces plans-là se font selon les moyens du groupe. Et ça, on ne cesse pas de le marteler, et on ne croit pas vraiment à la version de notre cher administrateur judiciaire qui nous dit, sous prétexte que les Allemands ne répondent pas, sans rentrer dans un mutisme absolu, ben il faudrait absolument licencier les gens via le contrat de sécurisation professionnelle qui est financé par l'AGS, l'agence de garantie des salaires. Nous, on refuse ça et on part du principe que c'est pas la vocation de l'État français de sauver une structure comme Aldébaran. Non, on est sous l'égide des Allemands. Il faudrait absolument qu'ils soient responsabilisés et qu'ils financent justement ce plan social, oui.
Ce n'est pas le premier plan social que connaît Aldébaran. Racheté en 2012 par un groupe japonais, il a déjà vu la moitié de son personnel partir. Si plus de 40 000 exemplaires de ses robots Nao et Pepper ont été vendus dans le monde, cette fois, sans repreneur, ce pionnier de la robotique française risquerait de perdre ses brevets technologiques.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour de la pluie au nord de la Loire et même des orages sur le quart sud-est. En revanche, le sud-ouest devrait encore bénéficier d'un ciel clément. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.